Vous écoutez RTL, première radio de France.
RTL.
American industry, don't bet against American workers. Don't tell folks that we have to choose.
Today the nation grieves, but those of us who love Dallas and call it home have had 5 deaths in the family.
He has laid the foundations for a new, modern, successful economy.
In Europe and elsewhere, we can work with the communists. Let them come to Berlin.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Kennedy lors de sa visite historique à Berlin, mais aussi Reagan, Bush, Obama. On vous parle des présidents américains ce soir sur RTL. Dans un peu plus de 2 mois, le 8 novembre, les Américains vont choisir leur président ou pour la première fois leur présidente. Ce sera le 45e titulaire du poste. On en profite donc pour découvrir quelques-unes des figures mythiques qui se sont succédées à la Maison Blanche. Bonsoir Georges Ayache.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Ça va très bien.
Vous êtes spécialiste des relations internationales, ancien diplomate. On dit président américain, tout de suite on pense Maison Blanche, mais c'est depuis toujours la résidence officielle des présidents américains ou pas ?
Pas exactement. Et le premier président s'est installé en novembre 1800, c'est-à-dire c'est John Adams, le deuxième président des États-Unis, ce qui veut dire que le premier, George Washington, n'a jamais été
à Maison
Blanche. Il était chez lui.
C'est vrai ?
Il n'y avait pas de résidence officielle.
Non, elle a été itinérante. La capitale fédérale était à Philadelphie. Ouais. Washington est venu... Peu après, le nom de Washington a été trouvé en 1791.
Ouais. Donc, alors, quand on dit président américain, on pense Maison Blanche. Et puis, on se dit tout de suite aussi l'homme le plus puissant du monde. C'est souvent une phrase qui est accolée au président américain. Est-ce que c'est vrai depuis toujours, ça ?
Non, ça n'a pas été vrai depuis toujours, notamment du point de vue des institutions américaines. La prééminence était au Congrès. Et le président était terne, avait un rôle qui était plutôt effacé par rapport au Congrès. Il faisait appliquer des lois qui étaient votées par d'autres. Donc sa marge de manœuvre était étroite. C'est à l'époque contemporaine, même pas avec Lincoln, mais au début du XXe siècle, que la présidence a commencé à prendre de l'ampleur, de la stature, et il a fallu des personnalités saillantes, hein, du genre Theodore Roosevelt, Wilson, pour que vraiment la présidence soit assise. Et puis après Roosevelt, évidemment, le président est venu en première ligne, et avec Kennedy, l'image du président est venue se lier à tout ça et faire du président ce qu'il est actuellement.
D'ailleurs, vous dites même, Georges Ayache, dans votre livre publié chez Perrin, Les présidents des États-Unis, histoire et portrait, vous dites que ces premiers présidents, à la fin du XVIIIe siècle, ils n'étaient ni omnipotents ni inaccessibles. Ça veut dire que c'était des monsieur et madame tout le monde ? Des monsieur tout le monde, pardon ?
Oui, c'était monsieur tout le monde parce que ils étaient modestes dans leur approche des choses. Hein. C'était des révolutionnaires qui avaient fondé le pays et ils voulaient avoir cette proximité avec les gens. Ils ne sont pas enrichis d'ailleurs quand ils étaient à la Maison Blanche. Ils tenaient à avoir des demeures qui étaient modestes. Hein. Il a fallu qu'on force Washington à accepter la construction de la Maison Blanche. Il se serait contenté pas d'une bicoque, mais de quelque chose de beaucoup plus modeste.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le pouvoir encore qui changeait.
Non.
Les hommes.
Non, le pouvoir n'existait pas et c'était pas leur conception au père fondateur d'avoir ce pouvoir. C'est justement un équilibre des pouvoirs de manière à avoir à la fois la stabilité et aussi la sagesse, ce qui n'était pas le cas de l'Europe, qui elle était monarchique et qui était le continent de la démesure.
Ça démarrait bien ?
Oui, ça démarrait bien. Ça démarrait bien, en effet.
Georges Ayache, je disais tout à l'heure, vous êtes un spécialiste des relations internationales. Vous êtes aussi un grand admirateur de Frank Sinatra. D'ailleurs, vous étiez venu ici même nous raconter l'histoire de Sinatra et du Rat Pack. Le Rat Pack, on ne va pas raconter l'histoire, mais autour de Sinatra, il y avait Sammy Davis Jr. Il y avait qui d'autre ?
Il y avait Peter Lawford, il y avait Dean Martin, ouais. Et puis un qui était moins connu, qui s'appelait Joe Bishop.
Et il y avait l'un des membres du Rat Pack qui avait un lien avec le président américain, c'est ça ?
Peter Lawford, et c'est son beau frère. Voilà. Il était marié avec sa sœur Patricia, une de ses sœurs.
Alors le Rat Pack, tiens, on se fait un petit plaisir, ça donnait ça.
Thomas, Rat Pack, Sinatra, JFK, c'est ça ?
Alors, c'est quoi l'histoire des liens entre Sinatra et John Fitzgerald Kennedy ?
Ils se connaissaient depuis 1953. Ils avaient été présentés par Peter Lawford, qui connaissait les deux, évidemment. Et leurs liens sont devenus très, 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 très serrés. Hein. Et les femmes étaient évidemment le dénominateur commun entre les deux. Et lorsque Kennedy s'est présenté à annoncer sa candidature à la présidence, Sinatra l'a soutenu immédiatement. Et ce Rat Pack, précisément, que vous évoquez, Sinatra a invité invité Kennedy à Las Vegas à assister à une des représentations du Rat Pack et c'était le lancement de sa campagne officielle.
Et pour autant, JFK va lâcher Sinatra après avoir été élu.
Oui, parce que la gratitude n'était pas la vertu majeure des Kennedy. Donc une fois élus, ils se sont débarrassés d'amis qu'ils considéraient comme gênants, des amis liés à la mafia d'une part, et puis Sinatra qui était aussi pas très 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 clair sur certains points, donc il s'en est débarrassé en effet.
Alors Georges Ayache, je le disais tout à l'heure en amorce, en présentation de votre interview, les Américains ils jouent un drôle de jeu avec leur président, ça s'appelle le ranking, donc ils les classent, c'est ça ?
Ils les classent, c'est un jeu auquel se livrent certains organismes universitaires. Ouais. Ils ont des critères qui sont pas toujours très, très objectifs, mais ce sont des critères qui ont le mérite d'exister, et ils font des sondages d'opinion là-dessus. Et invariablement, quelles que soient les questions posées et les critères choisis, les trois présidents qui viennent en tête, c'est Washington, le fondateur, Lincoln, pour des raisons évidentes de lutte contre le racisme, et le troisième, pour sa longévité, c'est Franklin Roosevelt.
Alors George Washington, c'est qui ? C'est d'abord un militaire, un chef de guerre, c'est ça,
oui,
ce père fondateur ?
Il a fait la guerre contre les Anglais. Et déjà, son titre de gloire, c'est cela, que la petite Amérique, inexistante, modeste, ait pu vaincre la grande puissance anglaise, c'était déjà un titre de gloire.
Alors, on va pas raconter évidemment toute son histoire. On va passer à son intronisation. Il prête le premier serment de président des États-Unis d'Amérique le 30 avril 1789. Ça se passe où ?
À New York. À New York, parce que Washington n'existe pas encore, la ville n'est pas créée, c'est encore du marécage. Et donc, c'est dans un endroit qui s'appelle le Federal Hall, qui est juste derrière Wall Street, d'ailleurs dans le quartier du Bas Manhattan. Et donc, il prête serment.
C'est un long discours ?
Oh là là, c'est le plus court de l'histoire. 133 mots et moins de 2 minutes.
Non, quoi ? On dirait un SMS.
C'est quasiment un SMS.
Pour un discours d'investiture.
Un discours d'investiture, ça comptait pas pour lui, etc.
Mais il est resté dans les annales ?
Il est resté dans les annales.
C'est-à-dire, c'est un beau discours quand même ?
C'était un beau discours, mais on a l'inverse, le cas inverse, qui est dramatique d'ailleurs. Le plus long, c'était William Harrison. Discours a duré.
C'est quelle époque ça, William Harrison ?
William Harrison, c'est à peu près les années 1840.
Ouais.
Et il a fait le discours le plus long de l'histoire, lui, 2 heures. Mais malheureusement, comme c'était en mars, à l'époque, on précisait serment en mars, c'est pas en janvier comme maintenant, la température était glaciale, il a attrapé une pneumonie et il est mort un mois après.
Il a été puni d'être trop bavard.
Donc là, ça a été radical.
Donc vous nous dites que les mieux classés et celui qui est toujours, mais il est invariablement numéro 1, George Washington, parce que c'est le père fondateur, tout simplement.
Quelquefois, on met Lincoln, c'est évident, mais les trois se retrouvent dans le trio de tête.
Et JFK, dont on parlait il y a quelques secondes, parce que nous, on a une espèce de passion pour les Kennedy en France et en Europe. Oui. Comment il est classé, Kennedy ?
Il n'y a pas exactement la même passion là-bas. Oui. C'est clair qu'ici, il fait beaucoup plus glamour que là-bas, où à la limite, c'est un peu plus secondaire, dirons-nous. Et Kennedy n'est pas considéré comme un très grand président. C'est un président qui, contemporainement parlant, a eu un impact énorme, c'est vrai, mais on est conscient aussi des échecs qu'il a eu sur sa politique, et le bilan est mitigé. Ce qui fait que, il y a l'homme d'un côté, avec son charisme et tout ce qu'on veut, mais à côté, on a un bilan politique qui est très contrasté, ce qui fait qu'il n'est pas considéré comme un très très grand président.
Et Bill Clinton ?
Alors Bill Clinton, il faudra du temps pour qu'on puisse vraiment remettre en situation sa présidence. Lui aussi, il sera marqué par une personnalité hors du commun. Son bilan ne sera pas négatif, mais il traînera cette histoire de tentative d'impeachment contre lui, et puis son histoire de liaison.
Donc pas très haut dans le classement et dans le cœur des Américains.
Si quand même, il est estimé. Il est estimé, il passe pour un grand président. Dans son époque, il n'y en a pas eu tellement de grands présidents. Il y a eu les Bush. Même Obama ne pourra pas probablement concurrencer Clinton d'ici quelques années quand on fera un retour plus serein sur le passé.
Alors tout à l'heure, quand on a pris l'antenne et passé le relais avec Marc-Olivier Fogiel, je racontais une anecdote surprenante issue de votre livre publié chez Perrin, Georges Ayache. C'est Thomas Jefferson, c'est ça, le troisième président américain qui s'ouvrait d'une espèce de phobie un peu particulière. Il détestait prendre la parole en public. Ça semble complètement dingue pour un homme politique. Du coup, il n'avait fait que Deux discours, c'est ça ?
Absolument, c'est ces deux discours d'investiture, puisqu'il a été élu deux fois.
Donc, il n'a jamais fait d'autres discours publics ?
Non, il détestait ça. C'était un humaniste, un encyclopédiste, comme on dirait nous en Europe, qui s'intéressait à tout, un esprit vraiment très très ouvert. Il détestait prendre la parole, tout simplement.
Comment peut-on gagner l'élection en ne faisant pas de discours, ça semble surprenant. On a une autre phobie étonnante à vous faire découvrir. Elle concerne le premier président américain, le père fondateur. Là aussi, c'est très handicapant pour un homme politique. Écoutez.
Vous écoutez RTL.
On continue de raconter l'histoire des présidents américains.
C'est l'histoire des présidents américains que l'on vous raconte ce soir avec notre invité Georges Ayache, spécialiste des relations internationales, qui dresse le portrait de ces hommes en attendant peut-être une femme accède au pouvoir. C'est tout à fait possible, Georges Ayache. Une femme qui a été en situation de remporter une élection présidentielle aux États-Unis, c'est absolument inédit.
Inédit, complètement inédit. Personne ne s'est retrouvé dans cette situation, même à des degrés inférieurs, puisqu'il n'y a qu'une femme qui était sur un ticket présidentiel, comme on dit. C'était en 84, je crois. Elle s'appelait Géraldine Ferraro, qui est décédée maintenant, qui était sur le ticket démocrate, et ça n'a pas marché.
Et un ancien président de la République, comme Bill Clinton, qui va devenir première dame, ça aussi c'est...
C'est complètement inédit, forcément, forcément.
Ça fait beaucoup d'inédits finalement.
Le first gentleman, oui, probablement.
Et elle connaît bien la Maison Blanche, Hillary Clinton, elle y a passé 8 ans avec son mari.
Elle a passé 8 ans, après elle l'a fréquenté en visiteuse en tant que secrétaire d'État, lorsqu'elle venait voir Obama. Mm-hmm. Et donc oui, elle connaît parfaitement la maison.
Alors on verra, on espère, parce que ça serait quand même bien qu'il y ait enfin une femme présidente aux États-Unis, qu'elle viendra enrichir une prochaine version de votre livre, Georges Ayache. Je rappelle, Les présidents des États-Unis, histoire et portrait, qui est publié chez Perrin. On va parler de son mari en attendant, Bill Clinton. Sidonie évoquait tout à l'heure sa popularité, vous avez répondu à la question. Mandat forcément marqué par ce scandale sexuel, le scandale Lewinsky. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup des scandales sexuels qui ont marqué des présidences, des présidents en exercice?
C'est-à-dire, il y en a eu pas mal, mais ça n'a pas éclaté au grand public parce que ça ne se faisait pas. Jusqu'à une époque très récente, jusqu'à Kennedy compris, la presse ne révélait rien. Elle s'auto-censurait et même c'était à la limite de la complaisance en ce qui concerne Kennedy.
C'est-à-dire que Kennedy, il aurait pu tomber pour, une dizaine de scandales sexuels. Pire, alors évidemment, on n'est pas là pour mettre un curseur que le scandale Lewinsky.
Mais largement. Il y a eu plusieurs centaines de fois, il aurait pu tomber.
C'est la complaisance, pourquoi ?
La complaisance parce que il y avait ce charisme d'abord. C'est clair que les journalistes étaient aussi impressionnés par la personnalité de Kennedy. Il y avait l'argent de papa aussi qui faisait beaucoup de choses. Il stipendiait pas mal de gens dans la presse. Et puis Kennedy, c'était Kennedy contre Nixon. Et Nixon, c'était la bête noire de la presse. Donc par contre-coup, Kennedy bénéficiait d'un régime de faveur.
Et puis la presse en général révélait assez peu ces scandales. Il y avait une espèce de pudeur à l'époque, c'est ça ?
On ne révélait pas, c'était pas sur la place publique. Et avant Kennedy, il y avait eu d'autres exemples. Roosevelt, par exemple, tout paralysé qu'il était, il avait des maîtresses à la Maison Blanche. Et ça restait quand même dans le silence.
Georges Ayache, on parlait tout à l'heure du père fondateur, du premier président des États-Unis, George Washington. Et dans votre livre, Les présidents des États-Unis chez Perrin, vous racontez qu'il souffrait d'une drôle de phobie. C'était quoi ?
Alors, la phobie était quand il était président, mais pas avant, on ne sait pas ce qui s'était passé avant, mais en tant que président, il est certain qu'il refusait de serrer la main à quiconque. Parce qu'il considérait que ça n'était pas digne de la fonction présidentielle.
Mais comment on peut faire de la politique sans serrer les mains ? Alors, quand on voit les politiques et même les présidents en exercice aujourd'hui, ça semble
Il n'avait pas besoin d'être populaire, il n'y avait pas de presse, il n'y avait pas d'opinion publique, donc pas de public. Évidemment. Par conséquent, quand il recevait des gens, il avait une main sur sa canne et l'autre, il tenait son chapeau. Ce qui évitait d'avoir à serrer la main.
Il ne faisait pas des petits hugs non plus, comme pour les Américains qui vous servent dans leurs mains.
Il n'avait pas de
hugs
et c'était sa manière de procéder.
Ouais. Alors, ça se déroulait d'ailleurs comment
Pardon Sidonie, on est, George Washington, on est à la fin du 18e, 1770.
Oui, exactement. Il prend ses fonctions en 1789 et il finit en...
Ces campagnes électorales, elles se déroulaient comment pour ces futurs présidents américains en train ?
Justement, pendant longtemps. Alors avant le train...
À cheval
Oui, non, il bougeait pas. Et pendant très longtemps, même après le train, il ne bougeait pas. Il faisait ce qu'on appelle des front porch campaigns, c'est-à-dire ils étaient sur leur perron. Ils faisaient quelques discours sur le perron de leur résidence avec des gens qui venaient les voir. Ils leur dispensaient la bonne parole. Et le reste du temps, c'était leurs amis, leurs alliés qui faisaient des discours à leur place. Mais eux, ils ne bougeaient pas.
Mais c'était le vote était le même, c'est-à-dire c'était un vote populaire,
le vote était le même,
un vote universel.
Le vote était le même, en effet. le suffrage universel indirect. On élisait des grands électeurs.
Comment il touchait les électeurs, ça semble.
Parce qu'il y avait des réunions de partis, des caucus, ouais. des conventions, comme maintenant, mais le média, les vecteurs n'étaient pas les mêmes.
Ouais. George Washington, qui avait des origines prestigieuses, de qui descendait-il ?
Oui, il descendait de roi d'Angleterre, Édouard III. Par sa grand-mère maternelle, il avait cette filiation-là, ce qui ajoutait évidemment pas à son prestige, parce que les Anglais étaient tellement mal vus qu'il valait mieux taire ce genre de filiation. Ouais. Mais bon, c'était quand même, on voyait qu'il n'était pas né dans une cabane à rondins, hein, comme on dit.
Et c'est parce qu'il avait une famille prestigieuse et de l'argent, peut-être qu'il a renoncé à son salaire comme président ?
Il avait de l'argent, mais pas exagérément, et il a renoncé par probité. Hein. C'est un homme tellement intègre qu'il a renoncé. Il y en a deux qui ont renoncé. Kennedy aussi a renoncé.
Kennedy n'a pas été payé pendant son mandat.
Il faut dire que bon, il n'avait pas besoin non plus.
Sa famille était très riche. C'était combien le salaire d'un président américain sous Washington ?
Autant, c'était 25 000 dollars par an. 25 000 dollars, il faut multiplier par 12 à peu près pour avoir le 12, je crois. Oui,
ce que ça représentait aujourd'hui en termes de richesse pour l'époque.
Oui, c'est
donc il ne renonçait pas à un petit salaire.
C'était pas rien.
Alors, George Ayash, on a commencé par Washington, qui est donc le président américain préféré des Américains. Et on va découvrir dans un instant qui est à l'extrémité du classement, qui est le plus détesté. La réponse dans un instant, les curieux.
Vous écoutez RTL, première radio de France. RTL.
Let us restore the golden rule to our political process and let brotherly love...
I think America will be a stronger nation, a more just society.
In this century, the three greatest politicians were Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, and Lyndon Johnson.
A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité de retour jusqu'à 22h sur RTL. C'est un bonheur de retrouver nos habitudes du soir, Sidonie, avec notamment avec ces stars de la grande histoire dont on aime vous faire partager le destin. On vient d'entendre les voix des présidents Ford, Johnson, Nixon et Roosevelt, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est George Ayash, notre invité, qui nous raconte l'histoire de ces présidents américains. Alors, on a dit qu'il y avait un ranking, un classement des présidents. Le préféré, c'est le père fondateur, George Washington. On a un peu raconté son histoire pour ceux qui nous rejoignent. Et d'ailleurs, vous pouvez nous réécouter en podcast sur RTL.fr. Alors, le plus détesté, c'est qui ?
Le plus détesté, il s'appelle Andrew Johnson. C'était le vice-président de Lincoln et qui a pris sa succession lorsque Lincoln a été assassiné. Et d'ailleurs, une sorte de malédiction qui pèse sur les Johnson, parce qu'il y a deux Johnson qui ont succédé à des présidents assassinés, puisque Lyndon Johnson a succédé à Kennedy en 1963.
Et alors, pourquoi ce pauvre Andrew Johnson pour être détesté comme ça par les Américains ?
D'abord, succéder à Lincoln, c'était pas une sinécure. Et en termes d'image, bon, c'était pas tout à fait évident. En plus, son image personnelle était tout à fait différente. Johnson était moins flamboyant, il était moins cultivé, il passait moins bien. Et puis, on lui a collé une histoire d'impeachment, c'est-à-dire de destitution. Bon, ça se discute sur le fond, c'est la querelle qu'il y a toujours entre le Congrès et le président, et le Congrès a essayé de lui régler son compte, comme on dit trivialement. Ça n'a pas marché, à une voix de différence. Et d'ailleurs, des décennies plus tard, la Cour suprême lui rendra justice en disant qu'il n'y avait pas matière d'impeachment.
C'était à cause de ses costumes aussi qui ne plaisaient pas beaucoup ?
Alors, les costumes, alors c'est curieux parce qu'il a commencé comme tailleur dans la vie, Johnson. Donc c'est quand même un comble. Et il se faisait lui-même ses costumes d'ailleurs, même à la Maison-Blanche, semble-t-il.
C'est dingue, c'est vraiment une autre époque. Là, on est au milieu du 19e, c'est les années 1865-69, oui. 4 ans de mandat. Il y a une. On va changer de président après, mais il y a une dernière anecdote à raconter sur cet Andrew Johnson. Qu'est-ce qui lui arrive lors de la prestation de serment de Lincoln, donc
de Lincoln, il prononce quelques mots, mais on s'aperçoit assez rapidement qu'il a un peu trop bu, qu'il est à peu près ivre, et donc il divague complètement. Donc ça fait un grand scandale, la presse se déchaîne contre lui, et Lincoln a l'élégance de le défendre, en disant non, je le connais très bien, ce homme qui a beaucoup de tempérance, il a essayé d'arranger le coup comme ça.
Parmi ces destin que vous racontez aux éditions Perrin, George Ayash, les présidents des États-Unis, il y a un cas unique, c'est un fils qui devient président comme papa.
Non, le cas s'est présenté une deux fois.
Ah, oui.
Ah bon?
Oui, la première fois, c'était Adams, deuxième président des États-Unis, John Adams, ouais. Et son fils, John Quincy Adams, est devenu à son tour président.
Il a suivi juste après?
Non. Il y a eu d'autres présidents, il y a eu deux présidents entre lui et son père. Mais,
Les Bush, il y a un président qui les sépare, c'est ça?
Alors, les Bush, il y a un président qui les sépare, et ce sont les deux seuls cas, en effet.
Et ils ont le même prénom, c'est ça?
Les Bush.
Les mêmes prénoms et le même nom de famille, c'est des.
Alors,
George Walker.
Le premier, le père, ouais. a un prénom supplémentaire, George Walker Herbert. Herbert Walker Bush. Et le deuxième, c'est George W. donc Walker Bush.
Pourquoi faire simple?
Absolument.
Mais en plus, ils ont à peu près les mêmes initiales. Alors, on va commencer par le père. C'est un one-term president. Ça veut dire quoi?
Président qui a été élu qu'une fois. Et qui a été battu donc pour sa réélection.
C'est assez rare, en fait, dans l'histoire récente.
C'est assez rare. Le seul cas qu'il y ait eu, à part lui, depuis la fin de la guerre, la dernière guerre, c'est Carter. Carter qui a été battu en 80 contre Reagan. Mais autrement, non. Tous les présidents ont été réélus normalement.
Pourquoi il a perdu contre Clinton en novembre 93,
C'est-à-dire que c'était une défaite assez étrange, parce que quelques temps plus tôt, il y avait eu la guerre du Golfe. Et il avait une grande popularité, à la fois dans son esprit de décision, et puis dans sa prudence, qui a fait qu'une fois que les objectifs étaient remplis, il a arrêté. Bon. Mais immédiatement après, il s'est heurté à des problèmes économiques qui l'ont rendu très impopulaire. Et dans son propre camp, on a commencé à le lâcher, parce qu'on a considéré que en Irak, il n'avait pas été assez loin, etc. Donc il a été lâché par son propre.
Il y a une anecdote amusante d'ailleurs qui le concerne, George Bush père. Ça se passe lors d'un dîner officiel. On est au Japon en janvier 1992. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui lui arrive?
Il a pendant un banquet officiel, il a un malaise et il se met à vomir. Et malheureusement, il se vomit sur le premier ministre japonais qui se trouve.
Oh non!
Avant de s'effondrer sur la moquette, inconscient. Non, c'était un malaise assez grave. Bon, pas grave dans les conséquences, mais sur le moment, ça affolait beaucoup de gens.
On imagine les chefs de la sécurité qui ont dû croire qu'il avait été empoisonné.
Alors les Japonais, bon, ils ont eu l'élégance de ne pas relever le truc.
Et de continuer à dîner avec un peu de vomi sur la bouche.
il était sûrement sur ce genre.
Il avait de la classe pourtant, George Bush, père.
Là, si vous voulez, ça dépend pas de lui. Il a eu un malaise.
Bien sûr.
Mais les Japonais ont pris ça avec humour. Et d'ailleurs, on désignait dans l'histoire ce comportement comme le truc. Ça se traduit en français comme le truc qu'a fait Bush.
C'est très drôle. Je parlais de la classe du père. Le fils en avait un peu moins.
Ouais, il en avait moins. C'était pas
junior.
Le père avait une classe à l'européenne. Il avait de la culture. Il était vraiment typique de la côte Est, même s'il a fait fortune au Texas, mais il était issu de Nouvelle-Angleterre. Le fils, lui, c'était un Texan plus caricature plus caricatural que ce qu'il est possible de concevoir. Hein. Mangeur de bretzel, une démarche à la John Wayne, barbecue. Mm. Bon, c'était sa façon d'être et il s'est fait élire d'ailleurs sur cette image-là.
George Bush, dont le destin politique a basculé le 11 septembre 2001.
La liberté elle-même a été attaquée ce matin par des lâches sans visage. Mais la liberté sera défendue. Je veux assurer le peuple américain que toutes les ressources du gouvernement sont utilisés pour sauver des vies et aider les victimes de ces attaques. Surtout, ne vous trompez pas. Les États-Unis vont poursuivre et punir les responsables de ces actes.
Discours de George Bush le 11 septembre 2001. Quelques heures plus tôt, on se souvient tous de cette image, George Ayash, quand Bush apprend que les États-Unis sont victimes d'une attaque terroriste. Vous nous rappelez où ça se passe? C'est un décor assez incroyable.
Ça se passe dans une école de province et Bush a fait ce que ses prédécesseurs n'ont jamais fait, c'est-à-dire d'aller dans une école, assister à la classe et même participer à une leçon de lecture. Tout se passe bien lorsqu'on lui apprend effectivement qu'il y a eu un premier incident contre une première tour. Bon, ça peut, il a pensé instinctivement, il le dira plus tard, un accident bête et quand on vient le prévenir de nouveau que la seconde tour a été atteinte, là, il n'y a plus de doute possible. Mais que faire? soit il quitte la salle précipitamment, ses sentiments de panique, le président qui perd son sang-froid, soit il reste, il attend quelque temps, le temps de calmer les choses et après d'agir. Donc il a choisi cette seconde solution.
Il fait quoi aujourd'hui, George Bush Junior ?
Ah, il peint. Il fait de la peinture. Il expose d'ailleurs à Dallas de temps à autre. Alors je ne sais pas ce que vaut sa peinture. Je n'ai jamais eu l'honneur d'admirer ses œuvres, mais il semblerait qu'il a un certain succès.
Bon, bah, il faut avoir envie d'exposer du Bush dans son salon.
Si on parlait du successeur en 2008, c'est Barack Obama. Le jour de son investiture, le 20 janvier 2009, il choisit une Bible particulière, symbolique. On vous raconte laquelle dans une minute.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut, sauf jusqu'à 22h sur RTL et sauf quand on parle des présidents américains, de leur destin absolument hors norme. Nous sommes en compagnie de Georges Ayache qui publie une série de portraits de ses présidents aux éditions Perrin. Vous nous guidez dans cette histoire foisonnante. Nous sommes le 20 janvier 2009. Barack Obama prête serment à Washington. Est-ce pas sous la cérémonie pour planter le décor ?
Au Capitole, depuis Jefferson, c'est le lieu qui est désigné pour prêter serment et pour prononcer le discours d'investiture.
Bon, tout s'annonce bien et pourtant il y a un bug ce jour-là.
Oui, il y a un bug parce que effectivement il y a un mot qui n'est pas placé au bon endroit de la prestation de serment, ce qui fait qu'il a peur que ça vicie toute la procédure. Donc le lendemain,
ça invalide son investiture. En
il a eu peur que ça soit invalidé, d'autant plus qu'il savait très bien qu'il y avait des gens qui n'étaient pas très bien intentionnés à son endroit. Ah oui. Donc le lendemain, il a recommencé la cérémonie d'investiture
à la Maison Blanche.
Mais il y avait un prompteur non, il lisait, d'accord.
Non, mais c'est-à-dire que la cérémonie se passe de cette façon-là. Le président de la Cour suprême lit phrase par phrase et le président répète. Et c'est le président de la Cour suprême qui a commis l'erreur. C'est pas Bush. Et Bush s'en est aperçu, comme beaucoup de spécialistes. Obama s'en est aperçu. Et donc, effectivement, craignant que toute la procédure soit entachée d'irrégularité, il a recommencé.
On vous le fait exprès de mettre du Rat Pack un peu partout parce qu'il y a un lien entre le Rat Pack de Sinatra et Barack Obama via Sammy Davis Jr. C'est quoi ce lien?
Ah oui,
j'ai vu ça dans votre livre.
Absolument, mais personne ne l'a relevé durant la campagne, ce qui m'a beaucoup étonné. Sammy Davis a publié un bouquin autobiographique dans les années 60-70 qui s'appelait Yes, I Can. C'est-à-dire, voyez-moi, avec tous mes handicaps, je suis noir, je me suis converti au judaïsme, je suis borgne, j'y arrive quand même.
Et donc c'est le Yes Weekend qu'Obama aurait récupéré. Il s'en vante, il parle de sa source, non ?
Non, parce que bon, Sammy Davis
est
un amuseur public. Et puis, je dois dire que dans la communauté noire, Sammy Davis n'était pas très bien considéré.
C'est une découverte de Jean Jaïch, alors.
On disait. Non, peut-être pas, mais enfin, il y a une analogie évidente. Hein. Oui, Yes Weekend et Yes I Can.
Alors, Barack Obama, premier président métis de l'histoire américaine, je disais tout à l'heure, il prête serment sur une Bible, mais c'est pas n'importe laquelle.
Non, c'est celle de Lincoln. Donc l'analogie, il a voulu la jouer là-dessus. Il est noir, il vient de l'Illinois, comme Lincoln d'ailleurs, et donc il a voulu effectivement se situer dans cette lignée, et il était tout à fait fondé à le faire d'ailleurs. Et d'ailleurs, avant de venir à Washington prêter serment, il a refait le parcours en train qu'avait fait Lincoln à son époque, de Philadelphie à Washington, et il va même faire un discours au mausolée de Lincoln à Washington aussi.
Alors, c'est évidemment au président qui a aboli l'esclavage qu'il rend hommage ce jour-là. Obama, c'est un descendant d'esclaves et même des tout premiers esclaves sur le sol américain, c'est ça ?
Oui, probablement, oui. Bon, on n'a pas l'affiliation avec certitude, hein, puisqu'on n'a pas de documents là-dessus, mais tout porte à croire, oui, en effet.
Alors, on va terminer cette galerie de portraits des présidents américains avec Abraham Lincoln, justement. Alors, lui, c'était le 16e président. Tiens, on va l'imaginer. À quoi il ressemblait ?
C'était un homme brut de décoffrage. Hein. Oui. C'était un homme qui était rugueux, qui s'est fait lui-même, qui est né dans une pauvreté indescriptible. Hein. Il a remonté socialement tous les échelons pour devenir avocat. Et même avocat, on n'a jamais voulu l'engager dans un gros cabinet. Donc il était avocat qui siégeait dans la prairie américaine pour régler des contentieux de bétail, etc. Et c'est petit à petit qu'il a commencé à prendre de la stature. Et un débat, notamment pour les élections sénatorial a eu beaucoup d'importance pour lui. Il a fait connaître et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à passer la rampe.
Est-ce qu'il était grand? Parce que oui. on a cette image d'un il portait des chapeaux qui étaient assez haute forme. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, est-ce que c'était le chapeau qui le rendait grand ou est-ce qu'il était vraiment
grand? Alors, le chapeau a augmenté sa taille, mais il était grand très probablement, selon les critères de l'époque.
Bien sûr.
Abraham Lincoln, c'est aussi le premier président américain assassiné pendant son mandat. Comment et par qui il a été tué?
Il a été tué par un artiste qui l'a assassiné au théâtre Ford de Washington, peu après la fin de la guerre de sécession, une semaine après. Et donc, il l'a assassiné comme ça, par conviction, puisqu'il était d'opinion sudiste et n'acceptait pas que Lincoln ait pu mettre fin à la guerre au profit du Nord.
Combien de présidents américains ont été tués dans cette histoire américaine?
Il y en a eu 4, le dernier étant Kennedy.
Lincoln, c'était un chef de guerre aussi. Il y a eu pas mal de présidents chefs de guerre.
Oui, mais des guerres imposées. Là, bon, pour Washington, c'est la guerre d'indépendance, donc ça ne compte pas tellement. Lincoln, c'est une guerre intérieure.
Oui.
Mais la guerre externe, le premier président à la faire, c'était Theodore Roosevelt, au début du 20e siècle, oui. Et encore, quand il a fait la guerre, lui-même, et s'est couvert de gloire, il n'était pas président. Mmh. C'était en 1898 à Cuba, contre l'Espagne.
Et Abraham Lincoln, quel chef de guerre c'était? C'était un stratège, c'était un meneur d'hommes.
Bon, il était un peu léger en termes de théorie militaire, mais il a su s'entourer d'hommes, de grands généraux comme Grant, par exemple, qui ont su galvaniser un peu les troupes qui n'étaient pas du tout en supériorité au départ. Hein. La Confédération sudiste n'était pas forcément perdante d'emblée. Mmh.
Beaucoup d'histoires à découvrir dans votre livre, Les présidents des États-Unis, Georges Ayache, histoire et portrait. Par exemple, une qui concerne Ronald Reagan. Ben, je sais que vous l'aimez beaucoup. Le 40e président des États-Unis, que fait-il juste, mais tout juste avant une allocution officielle? On est en août 1984 et vous souriez, vous régalez de ce que vous avez
raconté. Ah oui, parce que on l'a vu 36 fois sur YouTube, cette séquence. C'est Reagan qui fait des essais de voix au micro, mais il ne sait pas que le micro continue à tourner, enregistre. Il dit, bon, cher concitoyen, j'ai décidé d'attaquer l'Union soviétique, je vais bombarder dans 30 secondes. Et donc ça a été enregistré, c'est passé. Bon, après
il a dû s'expliquer un petit peu.
Il a dû s'expliquer, mais bon, on savait très bien que c'était un comédien, un acteur, et c'est passé sans.
Oui, c'était un bel homme.
Ah ouais.
Ça l'a servi, ça, dès l'université.
Ça l'a servi, et surtout son sens de la répartie, son sens du dialogue. Et puis il avait un talent d'improvisation incroyable. Dans son débat contre Carter, le débat présidentiel, à un moment donné, Carter, qui était un ingénieur
nucléaire.
Fin 80, Carter se lance dans une digression sur le nucléaire, alors qu'il est un spécialiste. Reagan prend le public à témoin et dit « On arrête, il en sait beaucoup plus que moi ». Mais la question n'est pas là. La question est de savoir si vous êtes plus heureux maintenant qu'il y a 4 ans. Si vous répondez non, on a peut-être un bout de chemin à faire ensemble.
C'est fort, ça.
C'est de la politique.
C'est un communicant.
Ah, c'est un communicant.
Hors pair. Et on est très loin des pères fondateurs qui faisaient deux discours par an, deux discours par mandat.
De la taille d'un SMS.
Merci beaucoup,
Georges
Ayache. Votre livre, Les présidents des États-Unis, je le rappelle, est publié aux éditions Perrin.
Vous écoutez RTL.